bienvenue dans le podcast Business Club, le podcast du business sportif, marketing, opérations de com, entrepreneuriat. Nous allons passer en revue toutes les opérations de nos invités dans cette industrie. Athlètes en activité, sportifs reconvertis, chefs d'entreprise et toute personnalité gravitant autour de l'univers du sport business. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Business Club et pas des moindres. Aujourd'hui, on accueille une légende du football français et du Paris Saint-Germain qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, Alain Roche. Bonjour Alain.
Bonjour à tous.
Comment tu vas?
Bah écoutez, impeccable, en pleine forme.
Bah merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on est là pour parler de ta nouvelle activité, Fan Life Rugby. Avant d'en parler plus en profondeur, on va quand même revenir un peu sur ton parcours, même si le parcours est énorme. Mais moi, j'aimerais plus parler de la reconversion. Après ta carrière, tu as une immense carrière. Et aujourd'hui, comme avant, je suppose que c'était un peu compliqué de se projeter dans une reconversion. Ce que tu as réussi à faire, ce n'est pas forcément le cas de tous les athlètes, tous les sportifs. Donc, comment on gère une reconversion et quel a été ton parcours jusqu'à aujourd'hui et cette nouvelle activité que tu lances?
Alors moi, j'ai dû mettre un terme à ma carrière
suite à
des problèmes de cheville importants. Je m'étais inscrit à tout ce qui était formation aussi d'entraîneur, mais il fallait passer par les premiers diplômes d'initiateur et autres. J'ai commencé par cette voie-là et je crois que 6 mois ou 7 mois après la fin de ma carrière, j'ai eu un appel de Michel Denisot qui m'a demandé si je voulais aller commenter un match comme ça, puisque je l'avais eu comme président quelques années auparavant. Donc j'ai fait une expérience de consultant sur 2-3 mois. Puis Francis Graille, à l'époque, qui était l'ancien président de Lille, devenait le président du Paris Saint-Germain et amenait avec lui Vahid Halilhodžić, l'entraîneur, pour entraîner le Paris Saint-Germain. Et j'ai rencontré Francis Graille à Paris, qui m'a demandé de venir travailler au Paris Saint-Germain comme responsable du recrutement, en association avec Vahid Halilhodžić. Voilà. J'avoue que j'ai pas beaucoup réfléchi. Je rentrais un peu chez moi, à Paris, où j'ai passé des années merveilleuses et 6 ans de magnifiques moments. Et l'opportunité de revenir travailler dans un club de foot et à Paris, il fallait pas la rater. Donc je suis remonté sur Paris avec femme et enfants. Mais j'avais toujours des attaches puisque j'avais tous mes amis qui étaient toujours sur Paris. Donc ça m'a facilité beaucoup, bien sûr, rapidement l'intégration. Donc voilà, je me suis inscrit dans ce club-là. J'ai appris sur le tas avec Jean-Michel Moutier et d'autres personnes qui étaient au club ce métier, au contact aussi de Vahid Halilhodžić. Et voilà, et je suis resté quand même, l'air de rien, grâce à Francis Graille, 9 années au Paris Saint-Germain en tant que responsable de recrutement. J'avais vraiment un rôle de directeur sportif, mais je n'en avais pas le titre en tout cas. Voilà. C'est une période assez intense, dirons-nous, dans ce club qui était d'une grande instabilité, qui l'est beaucoup moins maintenant, et tant mieux. Puis l'arrivée des Qataris s'est faite en 2011. Je suis resté encore un an de plus au club avec Leonardo, avec qui j'allais jouer. L'entente n'a pas été extrêmement cordiale. Et nous avons décidé d'un commun accord que je m'en aille. Voilà. Donc après ce départ, j'ai été sollicité par des médias pour travailler, voilà, que ce soit Eurosport, Orange, Reward Media aussi, et grâce à Guillaume Sampic, puis d'autres médias et Canal+ par la suite. Voilà. Et il y a 2 ans, Frédéric Longuepé est venu, qui était le président des Girondins de Bordeaux, est venu me chercher pour être directeur sportif des Girondins, voilà, pour tenter de remettre à niveau d'un point de vue sportif le club et d'un point de vue financier aussi, parce que le club perdait beaucoup d'argent. L'expérience a été courte, une nouvelle fois intense. Ça a duré 1 an, puis le club a été vendu et Canal+ m'a de nouveau réouvert ses portes. Voilà, et je suis là. Mais voilà donc un peu mon parcours après ma carrière. Et il y a une dizaine d'années, on a créé avec deux amis qui n'étaient pas des amis au départ, qui sont devenus des amis, Sponsor Live. Voilà. Qui au départ était plutôt une société qui voulait faire du marketing pour les clubs de foot professionnels. Puis on a bifurqué sur du fantasy football, qui existe toujours sur une application, okay, qui s'appelle Fan Life Fantasy Foot. Et depuis 9 mois, on s'est lancé dans une plateforme. Voilà.
Okay. Je vais rebondir sur ce que tu nous as dit. Est-ce que le fait d'avoir enchaîné assez rapidement aussi, ça t'a permis peut-être d'éviter une certaine situation que d'autres athlètes peuvent connaître ? Aujourd'hui, c'est des sujets qui sont très en vogue, comme la santé mentale, etc., et qui n'étaient pas forcément le cas à l'époque. On ne parlait pas forcément de ces sujets. Est-ce que toi, tu as senti que le fait d'avoir enchaîné assez rapidement, tu as évité peut-être certaines choses dans ton après-carrière ?
Tout à fait. Moi, j'ai dû mettre un terme à ma carrière en 2002. Je crois que c'était en juillet 2002. Je me suis inscrit à toutes ces formations et pendant 6 mois, ça a été très difficile mentalement, vraiment. Pourquoi ? Parce que, et c'est pas que dans le foot, c'est dans n'importe quel métier, le jour où vous partez d'une structure, vous pensiez que vous aviez des amis, des connaissances, mais plus personne ne vous appelle, tout le monde vous oublie. Et j'oublie pas, j'oublie les médias, hein, mais quand vous avez fait un métier en plus médiatique, donc le fait de plus parler de vous aussi accentue ce mal-être. Voilà. Donc vous passez d'une journée à 20 appels à zéro. Vous avez une vie totalement chamboulée, puisqu'avant votre vie était rythmée par vos entraînements et vos matchs. Donc le matin c'était l'entraînement, on revenait à manger à midi, on repartait l'entraînement l'après-midi, on jouait le week-end. Là, du jour au lendemain, vous amenez les enfants à l'école le matin. Vous patientez pour les récupérer à 16h. Vous êtes le seul homme qui amène les enfants à l'école, puisque vous voyez la plupart du temps que des femmes. Il faut meubler vos journées. Donc, ça a été une période assez difficile. J'avoue qu'il y a eu quelques moments un peu de difficultés, de pleurs, oui, d'isolement aussi. Et heureusement, je l'avoue que ma famille était là déjà, premièrement. Et que cette proposition du Paris Saint-Germain est arrivée aussi vite. Oui. Okay. Parce que je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile, parce que le temps de faire ces formations d'entraîneur, ça prend 2 ans, 3 ans. C'est difficile à dire comment je l'aurais vécu, puisque j'aurais repris contact avec le foot, j'aurais pris contact avec des gens qui parlent de foot, j'aurais appris un nouveau métier, donc j'aurais peut-être pas eu de difficultés, en tout cas psychiques. Mais pendant 6 mois, ouais, je me suis retrouvé à faire du vélo, à m'arrêter dans les vignes parce que j'étais entouré de vignes et de ne pas être au mieux, de se poser beaucoup de questions. Et surtout qu'on est jeune, quoi. On a encore, moi j'avais simplement 35 ans et il y a toute une vie derrière à faire. Tout le monde n'a pas eu non plus les moyens financiers de se dire on est à l'abri. Nous, dans le foot, on a. Tout dépend à quel niveau vous avez joué.
Bien sûr.
Et encore plus maintenant, la chance de pouvoir vivre de ce que vous avez gagné. C'était pas le cas de toutes les générations et c'est pour ça qu'il y en a qui s'ouvrent, parce que vous avez le vide sportif et après l'avenir. Vous avez quand même beaucoup de vos enfants élevés,
un nouveau départ,
il vous reste encore 40 ans à vivre, quoi. Enfin, minimum.
Ok. On va revenir sur ton activité actuelle. tu nous as parlé de Football Fantasy League. Aujourd'hui, tu lances aussi Fan Live Rugby. Est-ce que tu peux nous parler plus en profondeur de ce projet ?
Oui, alors c'est une plateforme digitale, de cartes digitales qui est dédiée au rugby. On est la seule à l'avoir créée. Elle a été déjà mise en ligne depuis 8 mois sous une autre appellation qui s'appelait Fan Life Card à l'époque. Okay. Mais on a redéveloppé cette plateforme, on l'a rendue beaucoup plus simple et elle est depuis janvier, elle est sortie maintenant sur le net et elle s'appelle Fan Life Rugby. Voilà, donc elle est dédiée au monde du rugby. On a envie qu'on transforme un peu la passion des gens en action et on a envie d'être un peu la quatrième mi-temps pour les passionnés de rugby. Donc voilà, donc c'est une plateforme où on essaie de connecter tous les acteurs du rugby. En premier lieu, nos actionnaires, puisqu'il y a Marc et Thomas Lièvremont, tous les actionnaires qui sont arrivés par la suite, comme Julien Bouteloup, qui est une référence dans le monde du Web3, les clubs de rugby aussi, puisque sans eux on n'existe pas, les joueurs de rugby professionnels, et on va parler un peu de notre modèle aussi, et bien sûr les passionnés qui vont se connecter à cette plateforme.
Et toi, pourquoi t'es tourné vers le rugby ? Est-ce que t'as toujours une appétence pour ce sport ? Comment ça s'est fait l'idée de t'orienter vers ça ?
Alors moi, je suis né à Brive, donc dans une ville où on parle de rugby. mon père a du rugby, mes grands-parents adoraient, mon grand-père adorait le rugby, donc j'ai toujours baigné là-dedans. J'ai eu beaucoup d'amis dans le rugby, que ce soit Philippe Sella, Olivier Roumat ou Dalmazo avec qui que j'ai côtoyé à l'armée. Ça se rapprochait en tout cas de mon état d'esprit.
Okay.
Puis après, des rencontres avec Marc et Thomas Lièvremont, Cédric Emmans ou Yann Delegue, voilà, tous ces gens-là m'ont. C'est pas initié au rugby parce que m'ont appris et m'ont convaincu qu'il fallait aller dans ce domaine-là parce que l'approche est différente, la mentalité est différente et je redis pas du tout mon milieu du football, heureusement. Et surtout, on avait un modèle économique qui se prêtait, on estimait davantage au rugby aussi. Voilà.
Ok. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus le modèle économique de cette plateforme ?
Ou alors cette plateforme, vous pouvez acheter des cartes, collectionner des cartes, vous pouvez jouer avec ces cartes-là aussi, vous pouvez même défier des gens de votre communauté. Et c'est vrai qu'on a un système très différent et innovant, c'est que derrière chaque carte de joueur, il y a un contrat signé avec les joueurs.
Okay.
Voilà. On estime, nous, avec Marc et Thomas, qu'à partir du moment où on utilise l'image individuelle des joueurs, on se devait de leur demander leur accord et qu'ils valident cet accord par un contrat. Donc on signe avec des clubs du top 14 et de Pro D2, ce qui était déjà le cas. Puis après, nous rencontrons les joueurs, nous les convaincons de nous suivre. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de l'aspect économique, c'est que derrière, il y a une proximité aussi avec les fans. Puisque, par exemple, on a constaté, et c'était le but, d'abord, premièrement, que ce sont nos principaux ambassadeurs, les joueurs de rugby, et qu'il y a eu pas mal de connexions entre les fans qui ont acheté les cartes et les joueurs de rugby sur les réseaux sociaux. Donc on a trouvé qu'il y avait un lien en tout cas entre ces cartes qui sont virtuelles, qui est un peu abstrait pour beaucoup de monde, pouvait avoir une connexion avec le réel aussi grâce à ces échanges-là. Et dans nos développements à venir, on souhaite sur cette plateforme pouvoir avoir une partie, une sorte de réseau social qui pourrait connecter en tout cas les gens, les passionnés possesseurs de cartes. Okay. Et les joueurs de rugby dont la carte est entre les mains de leurs fans. Voilà.
Ok. Mais justement, comment on fait pour convaincre ces clubs et ces joueurs qui s'associent justement à la plateforme ? Comment on s'y prend pour les convaincre ?
Ben, c'est pas facile. C'est un travail de longue haleine et je les comprends aussi, puisque quand vous êtes dans un club de foot, vous êtes focalisé sur le sportif, les aléas du sportif, les résultats du sportif. Vous connectez les gens, on vous répond, on ne vous répond pas, il faut insister, c'est toujours comme ça, parce qu'il y a des priorités aussi. Mais on a réussi à convaincre 7 clubs du top 14 et de la Pro D2, dont le Stade Français, dont le Racing 92. Très récemment. Et derrière, grâce à ces partenariats avec les clubs pour pouvoir utiliser l'image des clubs et les maillots des clubs, on leur demande de pouvoir rencontrer les joueurs. Donc okay. une réunion est provoquée avec tous ces joueurs-là et nous venons leur expliquer ce que nous faisons, qu'il n'y a rien à perdre pour eux, bien au contraire, plutôt tout à gagner. Un contact avec leurs fans. Il peut avoir aussi de l'argent aussi, mais de les sensibiliser comme quoi ils sont importants. Voilà. On ne peut pas galvauder le fait d'utiliser l'image d'un joueur. Ouais. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais joueur de foot, pas avec d'autres cartes. Mais c'est du boulot. Ouais. C'est du boulot, mais comme toute entreprise où il faut travailler, il faut arriver à convaincre les gens de nous suivre.
Okay. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment sont déterminés le prix et la valeur des différentes cartes sur le marketplace ?
Alors, on a fixé des prix modiques parce que on est là pour permettre à toute population de pouvoir avoir la carte de son joueur préféré. Donc les prix ont été fixés et après il y a une sorte d'enchère qui se passe aussi sur la plateforme. Et le plus offrant
peut récupérer
la carte. Voilà. Et il y a différents niveaux de cartes, que ce soit des, des, des silver, des gold, des platines ou des black. Donc c'est en série limitée, bien sûr. Donc voilà, donc il y a un système d'enchères qui est présent aussi. Mais il y en a pour tous les goûts, quoi, okay. Pour toutes les bourses.
C'est lié aussi à la performance sportive, non ?
Alors, dans un deuxième temps, et ça va arriver très prochainement, il y a un jeu de fantasy qui va être associé à la plateforme où ces cartes pourront être utilisées, mais pas que. Ce qu'on différencie de tous les autres aussi, c'est que nous, les gens qui viennent sur la plateforme ne sont pas obligés d'acheter des cartes pour pouvoir jouer. Mmh, voilà. Okay. Alors, à partir du moment où vous allez participer au jeu de fantasy, vous aurez des cartes pour constituer une équipe, même deux équipes, pour pouvoir jouer avec vos amis, à différents niveaux aussi, en fonction de vos compétences. Et bien sûr, tout ça est en fonction aussi un peu de ce que font les joueurs de rugby aussi lors du championnat.
Ok. De quel type d'avantages peuvent profiter les fanlivers concrètement
avec le jeu de fantasy
en collectionnant les cartes
En collection, on est en train de travailler avec les clubs aussi pour que cette carte ait une vraie valeur d'usage. Voilà. Ça peut être une rencontre avec des joueurs, ça peut être un maillot dédicacé, ça peut être une place au stade, ça peut être des crampons de joueurs aussi. Et c'est pour ça que la connexion entre les fans et les joueurs de rugby professionnels via les réseaux est capitale, voilà, pour qu'il y ait un lien de proximité et que les gens puissent un peu s'identifier davantage au club, bien sûr, et aux joueurs.
Ok. Tu peux nous expliquer le rôle stratégique qu'ont eu les partenaires dans l'élaboration de la plateforme? Je pense notamment à Orange, Tezos et plus récemment Stake Capital et Blackpool. Donc tu nous en as parlé tout à l'heure, mais c'est deux entités portées par Julien Boutelou, qui est une référence dans le Web3.
Oui, alors ça c'était ce que tu m'as dit, il y a des partenaires avec qui on travaille plus. Orange, c'est surtout sur le fantasy football.
Football, ok.
Donc sur une application de jeu fantasy. Maintenant, on a basculé sur une autre blockchain qui s'appelle Polygon. Grâce à l'arrivée au capital de Julien Boutelou, qui est une personne incontournable de Web3, qui est un grand investisseur dans des sociétés de Web3, qui a été convaincu par notre projet et qui est rentré au capital, qui est devenu un actionnaire très important, qui nous conseille aussi bien sûr sur nos futurs développements et sur nos développements actuels. Et donc nous a été conseillé aussi la société Comet, qui est une spécialiste de gaming dans le Web3, okay. Pour redévelopper une plateforme excessivement simple et très ludique et à la portée de tout le monde, parce que c'est quand même un monde assez obscur pour beaucoup de personnes non initiées à ce domaine du Web3, comme moi je l'étais il y a quelques années. Donc c'était important d'avoir des gens extrêmement compétents autour de nous, des acteurs incontournables, des spécialistes de ce marché-là. Ouais.
Du coup, concernant aussi les ambitions de la plateforme à moyen, à court, à moyen et long terme, quelles sont les ambitions de la plateforme ?
Là, on est à 7 clubs de top 14 et Pro D2. On essaie d'en convaincre le maximum possible. Dans la foulée, les joueurs aussi. On travaille beaucoup pour tenter. Et on n'est pas trop loin d'arriver à signer des fédérations étrangères ou des ligues et même des clubs étrangers. Parce que voilà, on a un désir d'un développement international. On ne peut pas se focaliser simplement sur la France. Mmh. Le rugby est un sport connu dans le monde entier. La Coupe du Monde va arriver aussi d'ici très peu de temps. Il y a des fédérations qui travaillent très très bien, où il y a beaucoup d'engouement autour du rugby. Donc voilà, donc on est en discussion avec des fédés, des ligues et des clubs à l'international. Mmh. Donc voilà, le développement, il faut aller le plus vite possible, bien sûr, parce que les autres, des gens sont là et les autres ne nous attendent pas et ils risquent d'avoir aussi d'autres concurrents qui peuvent arriver. Donc on est les premiers pour l'instant, profitons-en.
Okay. S'il y a des marchés en particulier déjà que vous ciblez?
Oui, bien sûr, les îles britanniques, hein, okay. faut pas rêver. Hein. L'Irlande, l'Écosse, l'Angleterre. On essaie de voir aussi dans d'autres pays sud-américains. Pardon, et... Donc voilà, on essaie de contacter toutes les fédérations, en tout cas, qui ont un mot à dire dans le monde du rugby. Voilà.
Ok. Jusqu'ici, c'est quoi ta plus grande fierté avec le lancement de cette plateforme, dans ce que vous avez accompli en termes de partenariat ou autre?
Ben, on est fiers déjà d'avoir sorti la plateforme, parce que ça prend du temps, énormément de temps, d'énergie, d'argent aussi, hein, faut pas se leurrer. Hein. Les développements coûtent cher. On est très fiers d'avoir convaincu certains clubs, mais surtout que certains clubs nous ont suivis. Voilà. Il y a des clubs qui ont été les précurseurs, comme le Stade français. Je ne remercierai jamais assez Thomas Lombard, qui était le premier à nous faire confiance et qui nous a beaucoup aidés. Par la signature de partenariat et bien sûr par les contacts qu'il a pu nous donner. Et voilà, c'est d'arriver à convaincre maintenant le Racing 92 sur nos projets aussi, parce que les clubs ont envie d'être dans cette mouvance-là aussi. On ne peut pas être à côté de ce qui se passe dans le Web 3. Bien au contraire, même si ça paraît un peu nébuleux pour beaucoup de monde. Donc voilà, ça c'est la première fierté, elle est là, d'avoir convaincu les gens. Et surtout, quand on voit les actionnaires qui sont venus au capital depuis quelques mois, ça veut dire que bon, on est sur la bonne voie. Voilà. Mais bon, on ne peut pas se contenter de ça. Il faut avancer. Ouais. Et c'est une remise en question tous les jours, parce que des concurrents arrivent. Hein. Ça, c'est clair.
Bien sûr. Et justement, comment on fait face à ce danger en termes de concurrence, enfin ces différentes concurrences? Tu l'as dit un peu tout à l'heure, le fait d'attaquer le marché assez rapidement, mais est-ce qu'il y a d'autres façons de faire face justement à la concurrence sur un tel marché?
Il faut innover, il faut aller plus vite, tout en s'inspirant aussi d'autres, hein. faut pas se leurrer, faut aller vite convaincre d'autres marchés. Voilà, parce que il n'y a pas que le marché français, on est sur un marché mondial, hein, quand on parle de Web3, il n'y a pas de frontières. Donc il faut aller vite. Après, pour aller vite, il faut aussi de l'argent. Donc c'est un combat aussi pour convaincre d'autres personnes de nous accompagner. Mais il faut faire des veilles, je crois qu'on n'arrête à rien, il faut travailler. Voilà, c'est tout.
Et est-ce que tu peux nous parler aussi de l'importance de la communication dans un tel projet, de la manière de le mettre en avant pour toucher les différentes cibles?
Oui, alors il y a plusieurs voies de communication, habituelle, hein, que ce soit la presse écrite ou la presse digitale, hein, mais on est plus sur du Web 2, mais il y a aussi la presse Web 3, hein, parce qu'il faut toucher une autre communauté. Et c'est pour ça qu'on s'est attaché aussi, les conseils en tout cas de sociétés qui sont vraiment bien intégrées dans le Web 3, comme H Consulting, et on est conseillé aussi par Reward Media pour la communication plus réel, dirons-nous. Voilà. Mais il faut communiquer constamment. Constamment. Il faut communiquer. Je ne sais pas si c'est pas parcimonie. En tout cas, il faut occuper l'espace.
Et tu parlais de l'importance des réseaux sociaux.
Exactement,
aussi aujourd'hui.
Les réseaux sociaux sans saouler les gens non plus. Hein, parce qu'ils sont abreuvés d'informations. Et c'est pour ça qu'on s'attache les conseils de sociétés spécialisées dans ce domaine-là.
Ok. Est-ce que pour conclure, tu aurais un mot à faire passer aux auditeurs concernant la plateforme ou de manière plus générale?
Ah ben oui, je vous conseille de vous connecter à finlaverugby.com. Venez découvrir cette plateforme, elle est très facile d'utilisation. En quelques clics, vous pouvez vous connecter. Les prix sont bas. Très, très prochainement, il y aura un jeu de fantasy qui va sortir aussi. Vous allez pouvoir échanger avec vos joueurs, puisque tous les joueurs qui sont sur la plateforme sont en contrat avec nous. Donc voilà, donc ne soyez pas surpris que dans certains clubs, par exemple, comme le Racing Stade Français Pau ou d'autres, il n'y ait pas la totalité des joueurs de l'effectif, parce que tout le monde ne nous a pas suivis. Ne nous en tenez pas rigueur, on essaie de les convaincre de nous suivre aussi. Voilà, mais c'est. En tout cas, c'est une plateforme d'échange, de conseils. Vous pourrez vous défier aussi entre vous très, très prochainement. Et j'espère de tout cœur un moment où vous allez toucher les joueurs professionnels de rugby de près, voilà, grâce à cette plateforme.
Okay. Ben, merci à toi.
De rien, c'était un plaisir.
D'avoir accepté notre invitation.
Merci de m'avoir invité surtout.
Et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour un prochain épisode du Business Club. À bientôt.